Pot yaourt, ficelle.
Bienvenue dans ce 7e épisode. Je l'ai appelé l'homme sans aveu. Cela fait un moment que j'y pense. Longtemps mes doutes n'ont pu être dissipés. Il faut dire aussi que les mots me manquaient jusqu'à maintenant. Tout a commencé lorsqu'un jour, sur un des murs de la ville, j'ai été interpellé par d'étranges marques. C'était sur la façade d'une maison, entre la porte d'entrée et la fenêtre du rez-de-chaussée. Au premier abord, on aurait dit que la peinture manquait par endroits. Il s'agissait peut-être des effets de la pollution ou de l'humidité. Mais à regarder de plus près, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement de crevasses. Il y avait aussi de petites excroissances. J'avais compris cela en me mettant en mouvement. Je fixais du regard la surface du mur tout en bougeant légèrement le visage. Je pus ainsi un peu mieux observer toutes les subtilités de la paroi. Après cela, je voulus voir ce qu'il en était si je me postais de l'autre côté de la rue. Ce que je fis. Je pus alors constater que toutes ces petites marques formaient une sorte de dessin. Ce dessin avait des allures d'arabesque. Je traversais la rue de nouveau. De près, je pus constater que les crevasses n'étaient pas bien profondes. Certaines pouvaient atteindre un diamètre d'environ 5 cm, mais seulement dans la hauteur. Elles présentaient sur leurs bords les excroissances que j'avais pu distinguer un peu avant, des sortes de tiges ondulées qui, disséminées autour des crevasses sous la forme d'éventails, se répandaient également en suivant de part et d'autre le chemin dessiné par des courbes. Celles-ci se séparaient parfois en deux ou en trois. Elles étaient tantôt interrompues par des crevasses, tantôt réduites à une succession d'amoncellements de tiges ondulées, de plus en plus éloignées. Je pris le temps d'examiner ce réseau de formes, cette nuée qui allait du trottoir au haut de la porte d'entrée. Le balcon, situé un peu plus au-dessus, était également touché. Le dessous présentait en effet quelques marques. Peut-être s'agissait-il du dernier endroit où celle-ci s'était propagée. Il m'était impossible de le savoir, car je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait sur le balcon. Seul le haut de la porte-fenêtre, menant au balcon, était visible. Elle était entrouverte. Autre chose attira mon attention. En effet, au niveau du trottoir, peu avant que les marques ne commencent à s'étaler sur le mur, il y avait une autre forme. Celle-ci, aussi large que mon avant-bras, serpentant du bas vers le haut sur une surface d'à peu près 30 cm, n'avait pas la même teinte que celle du mur. Très vite, il m'apparut vraisemblable qu'il s'agissait là d'une trace laissée par un objet qui, autrefois, jouxtait le mur. L'objet, ayant occulté une partie du mur, il l'aura préservé du même coup de la lumière du soleil, créant ainsi l'empreinte de sa silhouette. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'était tout à fait étonnant. Tout ça pour dire que je pourrais écrire un livre, moi. La ville, cela fait 42 ans que je l'arpente, de long en large et de bas en haut. C'est dire ce que je pourrais raconter. La maison a été détruite il y a des années de cela. À la place, ils ont mis des bureaux en verre et toutes les traces ont été effacées. Parfois, je me demande ce qu'il y avait dedans cette maison. Comme ça, on aurait pu dire qu'elle était inhabitée, mais ce n'était pas le cas. Je l'ai tout de suite vue. 20 ans de rue et j'ai toujours su reconnaître une maison vide. Non pas que j'aurais cherché à y entrer, je connais le respect. Et puis quoi qu'il en soit, je ne pourrais plus vivre dans un intérieur. L'appel de la rue est trop fort à présent. Au début, bien sûr, c'est difficile. Il y a l'éducation, la honte. On se cache. On ne demande rien à personne. Et puis on prend ses marques. Un peu comme dans un nouveau chez-soi, mais que l'on redécouvrirait chaque jour. Quelqu'un a dit qu'on ne pouvait jamais se baigner deux fois dans la même eau. Il avait sans doute connu la ville. La mienne, en tout cas, n'a jamais cessé de changer. Elle se pare de différents attraits chaque jour, parfois pour mieux me séduire. Elle me concocte des petits nids douillets qu'il me faut quitter une semaine plus tard. Avec elle, j'ai mes habitudes. Quand la nuit est bien avancée, que ma balade diurne m'a amené à revisiter un quartier lointain, je me laisse diriger par elle dans le lit qu'elle m'aura préparé. Je m'allonge sur un côté, en prenant bien soin de plier mes jambes exactement l'une sur l'autre. Après avoir soigneusement enveloppé mes mains dans mon écharpe, elle se place tout naturellement l'une sous mon crâne, l'autre sous mon oreille. Cette dernière doit être bien droite. Je déteste la sensation d'une oreille pliée. Et puis je ne suis pas comme ces gens-là, qui, l'oreille molle, la tordent à loisir jusqu'à risquer d'en avoir l'oreille disgracieuse. Avec la main la plus basse, je tire alors sur le col de ma veste afin qu'aucun courant d'air ne puisse venir à présent s'infiltrer dans mon cou. Je peux maintenant rabattre le col sur mes doigts. Cette main restera en alerte toute la nuit durant, jusqu'à ce que la chaleur moite du corps ne lui autorise le repos. J'entendrai bientôt le chant des oiseaux. Mais il faut que d'ici là tout se passe bien. Je la connais bien, la rue. Je vous l'ai dit, je la côtoie depuis 20 ans. C'est justement la raison qui laisse à penser que l'on ne sait jamais de quoi la nuit sera faite. Je dis que cela ne sert à rien de craindre le pire. Tout au contraire. Les fois où j'ai eu peur, c'est à ce moment-là que je l'ai laissée entrer. Elle attire tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. Je préfère alors croire que la vie est remplie de surprises et qu'il faut se laisser porter pour en connaître les plus grandes joies. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Croire que le premier venu est le bienvenu et qu'une fois qu'on perd plaisir à découvrir le monde, c'est la mort assurée. Alors parfois, alors que la nuit tombe, je me force à garder les yeux ouverts. Quelques minutes de plus pour profiter d'une étoile qui brille, pour entendre battre la mesure. Les talons d'une femme qui passe dans la ruelle, ou tout simplement surprendre une conversation de passant qui ne m'est pas adressée. C'est l'avantage quand on dort dans la rue. Vous faites partie du décor. Plus personne ne vous voit, et quand bien même les autres vous aperçoivent, ils détournent le regard, et ils font mine de rien. Eux ne vous voient pas, et vous, tout au contraire, vous voyez tout. Tout ce qui n'est pas donné à une personne commune. C'est comme ça que dans mon chez-moi, qui est d'ailleurs bien plus grand qu'un appartement, plus grand qu'une maison, je suis finalement très riche. Je crois que j'ai un quartier entier qui m'est réservé. Eh bien, dans mon chez-moi, j'ai les enfants de l'immeuble 5B qui me réveillent les samedis matins lorsqu'ils vont à leur match de foot. J'ai la boulangère qui me dépose une baguette invendue les dimanches soirs. Et le comptable de la maison qui donne en plein sur le parc royal, qui passe devant moi tous les lundis matins. Le rythme de sa marche est marqué par le cliquetis de sa montre. Il y a comme ça une expression qui dit « Vous avez l'argent, et nous, nous avons le temps ». Eh bien, il faut reconnaître qu'elle s'applique dans un grand nombre de cas, et elle fonctionne très bien dans mon cas. La nuit, par contre, l'hiver, le temps, eh bien le temps, il est froid. Alors on se réchauffe comme on peut. Je fais en sorte qu'aucune parcelle de ma peau ne soit donnée au vent. Et aux petites heures, je m'engouffre dans le métro. Je m'assieds toujours sur le même banc, à l'arrêt trône, alors que les premiers métros défilent. Il me faut au moins 1 heure pour me réchauffer. Il paraît qu'avec le temps, on devient moins sensible au froid. Mais ne dit-on pas que les personnes âgées sont frileuses ? Après 20 ans, je ne suis pas moins sensible au froid, et je sens le vent me traverser le corps tout entier à chacun des passages du transport en commun. Il paraît aussi que l'on s'endurcit mentalement. Ça fait beaucoup de « il paraît » tout cela. Et j'ai pour l'heure beaucoup de mal à en être la preuve vivante. Je suis mobile, oui. Je n'ai pas de profession. Mais j'en ai des histoires à raconter. À qui veut bien m'écouter. Barbeduc, Barbe à papa, Barbichette, Barbie et toute la smalla. Je les ai rencontrés il y a bien des années, ceux-là. Le 6 avril 1992, je m'en souviens car ce jour-là, j'avais lu dans un journal qu'un type de la haute avait laissé sur un banc que l'écrivain Isaac Asimov venait de mourir. Isaac Asimov, c'était un russe immigré aux États-Unis qui écrivait des bouquins de science-fiction à propos de robots du futur et d'empires galactiques à la dérive. Et c'est marrant parce que la dérive, moi, j'en connais un rayon. Ah ah, c'est drôle. Vous savez d'où ça vient l'expression « en connaître un rayon » d'ailleurs ? Non. Hein? Eh ben moi, je sais. Oui, madame. C'est pas parce que je dors sous un pont que je suis bête comme mes pieds. Oui, madame. C'est pas parce que je sens des pieds que je suis bête comme un robinet. D'ailleurs, en parlant de robinet, j'ai été plombier dans ma jeunesse. Oui, madame. Clé de 12, clé de 32, j'en avais pas qu'une. Je savais te réparer la moindre broutille dans ton appartement. Et dans mon appartement aussi, d'ailleurs. Parce que, avant de vivre dans la rue, j'en avais un. Oui, madame. Rue Gambetta, numéro 12. Les murs étaient roses, pas très jolis, mais c'était chez moi. Avant que la vie ne me fasse un croche-pied et que je tombe la tête la première sur le trottoir. Sans les mains. Vous saviez que Gambetta, c'était le 36e président du Conseil des ministres sous la 3e République? Il s'appelait Léon. Tiens d'ailleurs, vous saviez que Léon, c'était un disciple de Platon? Non. Eh ben moi, je le savais. Oui, madame. Faut pas croire, c'est pas parce que comme ça j'ai pas l'air de grand-chose avec mon bonnet troué à deux balles que je ne sais pas lire de la philosophie. Je le sais très bien que la caverne, c'est pas vraiment une caverne. Je suis un homme de la rue, mais pas un homme des cavernes, hein. D'ailleurs, sachez que cette expression est totalement infondée et vide de sens, car les humains préhistoriques n'ont jamais, au grand jamais, vécu dans des cavernes. À la limite, ils se sont fait des abris à l'entrée des cavernes, mais ils n'ont jamais vécu dedans. C'est comme moi, je dors à l'entrée du métro, mais ne vis pas à l'intérieur. De toute façon, ils ne me laisseraient pas. Imaginez pourtant, ça pourrait être plutôt pas mal. Je pourrais m'installer à Trône, y planter une petite tente ou me faire un abri. Ça m'arrangerait bien quand il fait froid. Mais en était pas question. Je préfère dormir dehors, à la belle étoile. Même si au final, je sais que ce ne sont que des boules de plasma dont le diamètre et la densité sont telles que la région centrale qu'on appelle le cœur atteint à un moment de sa vie la température de l'ordre de 3 millions de Kelvin, au bas mot nécessaire à l'amorçage de réactions de fusion de l'hydrogène. Je trouve que la poésie qui s'en dégage est belle à en pleurer. Mais attendez, je parlais de quoi déjà? Je ne sais plus. Ces derniers temps, je passe d'un sujet à l'autre sans jamais me poser. L'autre jour, je discutais avec un pote qui traînait du côté du parvis. Il a dû me répéter 3 fois le nom de sa fille. Pas moyen de bloquer dessus. C'était gênant, imaginez. Oui, ça fait 6 ans que j'ai pas vu Bianca. Qui ça? D'ailleurs, vous m'avez dit votre nom et je m'en souviens pas. Je me permets de vous le dire car je sens que vous êtes sympa. Les gens sont pas toujours sympas, voyez. J'ai reçu pas mal de coups dans la rue. Mais ce qui fait le plus mal, c'est les insultes. Je préfère un mec brutal à un mec méchant. Pour cela, j'ai une réponse toute faite. Ôte-toi de mon soleil, que je leur dis. Ça vient de Diogène, ça. Un genre de Clodo savant de l'Antiquité. Je connais bien. Parfois, je me dis que j'aurais bien aimé vivre dans l'Antiquité grecque. Des mecs super malins qui traînent en rue et discutent avec tout le monde. Alors ouais, ils mouraient à 40 ans d'une épée dans le dos, mais c'est quand même plus classe qu'un cancer ou le sida. Ben tiens, comme Asimov. Il est mort du HIV, le pauvre. Peu de gens le savent, et sans tremper le biscuit en plus. Il avait été infecté lors d'une transfusion sanguine pour un pontage aorto-coronarien. Paye ta chance, c'est à vous faire croire au coup du pacte avec le diable, ça. Fallait peut-être qu'il donne quelque chose en échange de son génie. C'est pour ça, moi, je reste à un niveau décent. Pas trop haut, pas trop bas, voyez. Histoire de pas m'attirer le mauvais œil. J'avais pas aimé apprendre sa mort, je lisais un journal égaré sur un banc. Ah ben ouais, c'est de ça qu'on parlait. C'est le jour où j'ai rencontré les types que vous recherchez. Fernando Cortés et Roberto da Silva. Des types pas clairs à première vue, mais plutôt gentils quand on finit par les connaître. Ils se sont posés sur le banc en question et marmonnaient en zieutant la banque en face de nous. Ferny, c'est comme ça que je l'appelle, il transpirait tellement que je me suis senti obligé de lui refiler un mouchoir. Et là, on a sympathisé. Ils sont revenus pratiquement tous les jours pendant un mois. Me ramenaient une bière de temps à autre. On discutait de voyages, de peinture, de littérature. Et puis plus rien. Je ne savais pas ce qu'ils étaient devenus. Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Saosen, Sophie, Paul et Olivier pour leur participation à l'écriture de ce texte. Sans oublier le musicien de cet épisode, qui cette fois-ci n'était autre que Sébastien Dingens. À la prochaine !